Bienvenue dans le podcast Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. Je suis Ala, psychologue.
Et je suis Mona, psychiatre.
Et on travaille toutes les deux au C3RP, une unité du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
On reçoit beaucoup de questions sur l'autisme sans déficience. Et plutôt que d'y répondre nous-mêmes, on a décidé de donner la parole aux personnes concernées directement. Et on reçoit aujourd'hui Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et on reçoit également le docteur Boris Chaumette.
Bonjour.
Qui est psychiatre et généticien. Et donc on t'appellera Boris hein, pour l'épisode.
Très bien,
ça te va.
Parfaitement.
On va tous se tutoyer. Alors du coup Thomas, raconte-nous un petit peu tes premiers symptômes. Qu'est-ce qui t'a amené à consulter des spécialistes?
Mes premiers symptômes, c'est à la naissance, clairement. Puisque c'était des syndromes qu'on a su assez tardivement, en fin de compte, liés au syndrome bronchio-oculofacial, ou BOF. Donc, pas mal de malformations à la naissance. Alors, la liste est assez longue, mais je peux noter une syndactylie au niveau des doigts.
Alors, c'est quoi une syndactylie?
Alors, c'est des doigts qui sont collés, en fait, à la naissance.
D'accord.
Dans mon cas, c'était les deux doigts du milieu. Donc annulaire majeur si je ne me trompe pas, et entre autres choses, des problèmes auditifs, une fente palatine, pas mal de trucs qui se mélangeaient en fait, un rat atrophié, pas mal de choses.
Et, alors juste pour expliquer tous ces termes, du coup une fente palatine c'est quand il y a une fente, toi tu le sais parce que tu vis avec depuis que t'es petit.
Depuis que je suis né quoi, donc bon.
Alors vas-y pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est une fente palatine.
Je suis pas médecin, donc je vais peut-être me tromper, mais en gros, c'est une malformation au niveau de la lèvre supérieure. Alors, je sais que ça peut se manifester par un trou, même potentiellement. Alors, je sais pas si c'était mon cas, mais en tout cas, il y avait un problème à ce niveau-là et ça se résout assez simplement avec une opération, en fin de compte.
Ouais,
rien de bien grave, en fait, mais plutôt dans la quantité de choses et de fait. Vu qu'il y a eu beaucoup de choses à gérer dans ma petite enfance, ajoutant à ça une surdité qui a été détectée assez tôt. Donc,
et tu disais un rein atrophié, c'est-à-dire un rein qui était plus petit que la norme
Qui était carrément pas fonctionnel en fait.
Pas fonctionnel, d'accord.
C'était un truc multikystique, non fonctionnel, et en fait, il a été enlevé direct.
D'accord.
Et. En fait, le premier diagnostic, il a été posé à l'hôpital Necker à Paris. Et il s'était concentré à la base sur un syndrome de Möbius qui a des symptômes assez proches, en fait. Mm-hmm. Et c'est, je crois, à mes 17 ou 18 ans que, en fait, mes cheveux ont commencé à blanchir. J'avais toujours des rendez-vous à l'hôpital Necker. C'est régulier, une fois tous les ans ou tous les deux ans, peut-être. C'est vers mes 17-18 ans que en fait, l'idée du syndrome BOF est arrivée. Et vu qu'il y avait un moyen de le tester, on m'a fait tester, moi ainsi que mes proches directs, c'est-à-dire sœurs, frères, parents. Et il s'est avéré que le syndrome était dû effectivement à une mutation, donc que c'était bien ça d'une part, et qu'il était dû à une mutation des nouveaux, donc quelque chose qui n'était pas présent chez mes parents ou personne d'autre de ma famille, qui est apparu donc, de lui-même lors du développement. Quant aux consultations qui ont mené au diagnostic de TSA, c'est beaucoup plus récent, 2016 ou 2017. 2018.
Et qu'est-ce qui a fait penser à ce diagnostic?
Alors, c'est une histoire assez compliquée, mais en gros, il y a eu une crise familiale, je dirais, comme ça peut arriver un peu partout. Et il y avait plusieurs choses qui se sont télescopées à ce moment-là, qui ont fait que j'ai un peu pété un câble. Et du coup, j'ai profité d'un rendez-vous à Necker pour demander du conseil, en fait. Et on m'a redirigé vers l'hôpital Sainte-Anne, où je suis allé de manière assez, voire complètement néophyte, innocente. Et en fait, je me demandais juste ce qui se passait. Je ne savais pas si c'était grave ou je ne sais pas. Je m'attendais à peu près tout. Y compris à ce qu'on me dise que je n'avais absolument rien, ce qui aurait composé un problème en soi, mais pas le même. Du coup, j'ai passé des tests, pas mal de rendez-vous là-dessus. Et le diagnostic, oui, il a dû être posé que j'avais 26, 27, 26.
Quand tu dis que ça aurait été un problème de pas qu'on te dise, ben non, il n'y a pas de diagnostic.
Bah, ça veut dire que je me serais fait un film et du coup ça aurait été un problème que je me fasse un film à ce point.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y aurait eu une grosse dissonance entre l'image que j'avais de moi et le réel.
Et c'est quoi l'image que tu avais de toi?
Bah, je savais qu'il y avait un problème, je savais pas quoi. J'ai besoin qu'on me dise qui posait souci et que je mette des mots dessus. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, mais après, savoir quoi exactement. Est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça évolue pas? Est-ce que, bah, en fait, toutes ces questions-là, j'avais aucune réponse. Et n'ayant aucun entourage qui soit particulièrement expert dans la question, quoi que ce soit, j'avais vraiment aucune piste, quoi. Donc au final, c'était quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Et le souci, c'est que avec une maladie, enfin avec un syndrome rare comme celui-là, on a tendance à mettre beaucoup de choses sur le dos, en fait, de tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire les opérations, les hôpitaux, etc. On a très vite fait de dire, c'est les traumatismes dus à l'intubation ou je ne sais quoi. Sauf qu'à un moment, on réfléchit, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout lié. Et,
Ouais,
ça
toi
me
tu trouvais
suffit
qu'il y
pas,
avait.
quoi. Ça me suffit pas comme réponse. Parce que bon, qu'il y ait des trucs, je veux bien, mais ça me. Il y avait autre chose et au final, il s'est avéré qu'il y avait effectivement autre chose et que bah, j'aurais jamais pu le savoir seul de toute façon.
C'était quoi ces autres choses du coup qui te gênaient et qu'on mettait sur le plan
Ben, c'est
du
un état
traumatisme?
général, c'est-à-dire que je suis une personne d'un naturel assez, je dirais, anxieux, enfin plutôt anxiogène. C'est-à-dire que j'ai tendance à me générer de l'anxiété sans l'aide de personne. Je ne suis pas spécialement quelqu'un d'anxieux de base. Peut-être même plutôt optimiste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais j'ai tendance à me générer de l'anxiété très facilement. Sans forcément que ça dérive d'ailleurs sur de la crise d'angoisse ou quoi que ce soit, c'est plus un état très mélancolique, un peu comme une espèce de distance, une barrière un peu avec le reste du monde, parfois, qui est incompréhensible de mon point de vue en fait. C'est, j'ai une distance que je vois pas forcément, enfin, je la vois, mais je sais pas forcément pourquoi elle est là. C'est-à-dire que la distance se crée forcément ben, d'une manière ou d'une autre. Je pense d'une part, ben, tout simplement en termes d'interaction sociale. Mais vu que pour moi, mes interactions sociales sont normales, la barrière, je la vois, mais je ne sais pas pourquoi elle est là. Je dirais que d'un point de vue extérieur, effectivement, c'est peut-être quelque chose que les gens soit perçoivent consciemment, voire ne perçoivent même pas consciemment. Et je pense que chez l'extrême majorité des gens, en fait, c'est très inconscient comme truc. C'est quelque chose qui. Ils le ressentent sans forcément le ressentir, quoi.
Le fait que tu sois toi
Oui,
différent, c'est
c'est ça.
ça. D'accord, ok. Et alors justement sur cette différence, peut-être Boris, tu peux nous expliquer quel est le lien qu'on peut faire entre les syndromes génétiques et notamment en l'occurrence le syndrome bronchio-oculofacial et le trouble du spectre de l'autisme.
Le cas de Thomas, il n'est pas rare. C'est-à-dire que c'est une maladie rare. Il y a plusieurs milliers de maladies rares. Et du coup, quand on met ensemble toutes ces maladies rares, on arrive à plusieurs millions de personnes en France qui souffrent d'une maladie rare. Et donc finalement, ce qu'on dit, c'est rare individuellement, mais fréquent quand on les prend collectivement, ces maladies-là. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que dans l'enfance, et c'est logique, on va parer aux plus urgents. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge les problèmes ORL, dans le syndrome bronchio-oculofacial. On va prendre le problème rénal, par exemple. On va prendre le problème cardiaque. S'il y a un problème cardiaque, on va prendre. Et donc, du coup, on se focalise sur le corps. Et puis le psychisme, des fois, on y prête un petit peu moins attention, ou alors on va dire, effectivement, comme on l'a dit à Thomas, c'est le fait d'avoir été à l'hôpital, c'est le fait d'avoir eu ces symptômes physiques qui ont déclenché l'anxiété, les problèmes de dépression, etc. Donc en fait, on met un petit peu sous le tapis les problèmes psychiatriques. Parfois, ils sont très légers, donc ils passent aussi un peu inaperçus. C'est tout à fait possible que dans l'enfance, on ne repère pas toujours les symptômes. Et puis à l'adolescence, ce qu'on voit souvent, c'est une émergence de symptômes. D'abord parce que les maladies psychiatriques, elles démarrent à l'adolescence. Ça, c'est toujours 15-25 ans, c'est la zone un peu où les symptômes psychiatriques peuvent démarrer. Et puis l'autre élément, c'est que, notamment dans l'autisme, c'est un moment où il y a une demande sociale plus importante à l'adolescence. Parce que quand on est enfant, finalement, on vit avec ses parents, ça se passe comme ça, on va à l'école, on rentre le soir, on a la nourriture qui est préparée, la vie, elle est rythmée par l'entourage. À l'adolescence, c'est différent. On va commencer à rencontrer des amis, éventuellement à se questionner sur des questions amoureuses, à devoir trouver un travail, à savoir comment on va s'insérer dans une société. Et donc, du coup, ça oblige à faire ses pas un peu seul, sans l'aide des parents, dans un moment où, en plus, avec l'autisme, c'est difficile d'interagir. Et donc, du coup, ça génère beaucoup d'anxiété. Et ça, c'est vraiment très fréquent de voir des patients qui ont une maladie rare ou une maladie génétique et qui s'en sortaient plutôt bien. Et à l'adolescence, arrivent des symptômes du style anxiété, dépression, qui sont peut-être passés un peu inaperçus avant, mais surtout qui ont été augmentés, je pense, aussi par la demande sociale au moment de l'adolescence. Donc ça, c'est vraiment un schéma assez classique. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans le trouble du spectre de l'autisme, il y a énormément de facteurs génétiques. C'est une maladie extrêmement génétique. Alors là, on parle du syndrome BOF, qui est une maladie rare dans laquelle il y a effectivement eu des cas qui ont été rapportés avec de l'autisme et ce syndrome-là. Mais de manière générale, dans l'autisme, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires génétiques derrière. On a complètement changé la conception de l'autisme, où avant ça passait pour une maladie environnementale, on avait même tendance à accuser la famille, à accuser l'éducation, à accuser le patient. Aujourd'hui, on a complètement changé la conception de l'autisme en disant mais c'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à la biologie, et ça on ne le maîtrise pas. Et ensuite, derrière, les gens font comme ils peuvent, ils se débrouillent. Donc c'est sûr que ça réorganise la famille, que ça peut donner des disputes au sein de la famille, ça peut donner des incompréhensions avec les autres. Et donc derrière se greffent des difficultés annexes qui arrivent. Mais la cause de l'autisme, aujourd'hui, elle est génétique. On le sait, c'est une maladie extrêmement génétique. C'est parmi les maladies les plus génétiques qu'on a en médecine. Beaucoup plus que les maladies cardiovasculaires, beaucoup plus que le diabète, beaucoup plus que les accidents neurologiques, etc. Donc c'est vraiment important à comprendre. Et des cas de maladies rares avec des syndromes d'autisme, c'est finalement assez fréquent. Et ça doit vraiment nous aider à comprendre la génétique de l'autisme.
Et à quel moment, de façon générale, on doit se poser la question de faire un bilan génétique? Alors.
Alors aujourd'hui, comme c'est des bilans génétiques, c'est facile à faire, c'est des prises de sang, qu'il y a quand même ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un taux de rendement diagnostique important, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de fois, on trouve des causes génétiques, ça vaut le coup de le faire de manière assez large. Là, c'est sûr que quand il y a des malformations d'un organe, quand il y a différentes personnes dans la famille, par exemple, qui ont des traits autistiques, c'est-à-dire que en gros, on voit que plusieurs personnes atteintes dans la famille, quand il y a un retentissement très important ou qu'il y a des signes qui paraissent pour le médecin un peu différents d'un autisme classique, là, il faut aller vraiment au bilan génétique. Après, moi, j'ai tendance à dire maintenant que si le patient, si la famille sont demandeurs du bilan génétique, il faut aller très vite vers le bilan génétique parce que c'est des choses qu'on connaît de mieux en mieux et qu'on peut proposer. C'est vraiment extrêmement simple de le faire. Donc, je veux dire, c'est moins prise de tête, si on peut dire comme ça, qu'une IRM, par exemple. Une prise de sang, vous avez votre résultat 2, 3 mois après sur un certain nombre de tests. Il y a encore beaucoup d'inconnus, hein, donc on ne trouve pas toujours les réponses, mais c'est quand même pas très invasif comme technique. Quand même, une prise de sang, je veux dire, tout le monde peut à peu près le supporter. Alors, certains peuvent avoir un peu d'anxiété par rapport à la prise de sang, mais je veux dire, c'est des choses qui sont de la routine médicale. Là où il faut faire un tout petit peu attention dans le bilan génétique par rapport à d'autres examens, c'est qu'il y a des petites particularités liées à la génétique. Comme avec la génétique, on balaye large, on va chercher plein de choses dans tous les sens, parfois on tombe sur des choses qu'on n'attendait pas. Ça, c'est une première chose à expliquer aux personnes, c'est que quand on fait un bilan génétique, on peut trouver, par exemple, un risque de prédisposition à un problème cardiovasculaire. On peut trouver un risque de prédisposition à un cancer. Donc, vous êtes venu en consultation pour vous poser la question de pourquoi vous aviez un problème d'autisme, et en fait, on vous dit, on va faire de la génétique, et avec la génétique, on répond à une question que vous n'étiez pas à poser. Donc ça, il faut avoir ça en tête, et la personne a toujours le droit de ne pas savoir, le droit de dire non, je ne veux pas. Et puis avec la génétique, la deuxième petite particularité, c'est qu'on rentre vite dans une histoire familiale. Imaginez que vous veniez en consultation pour une histoire génétique, pour une histoire d'autisme, et vous voulez faire un bilan génétique. On vous fait une prise de sang, on trouve quelque chose chez vous. C'est comme pour le cas de Thomas. Ensuite, on va commencer à proposer à la famille de faire aussi le dépistage génétique. Et donc, du coup, vous allez rentrer dans une histoire familiale. Il y a des familles pour qui c'est extrêmement compliqué de ça parce qu'ils sont fâchés, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler. Et donc, du coup, il faut faire attention où est-ce qu'on met les pieds dans ces histoires génétiques. Mais à part ces difficultés éthiques ou ces difficultés vraiment d'organisation des soins et du rendu des résultats, la génétique, c'est quelque chose d'extrêmement simple aujourd'hui.
Et en même temps, si on m'a diagnostiqué un syndrome bronchoculofacial, je comprends bien qu'au bilan génétique, il y aura forcément quelque chose qui va apparaître. Si on m'a diagnostiqué un autisme, est-ce que je vais forcément avoir une anomalie dans mon bilan génétique?
Aujourd'hui, il y a plein de cas où on ne trouve rien. Ça, c'est pour une chose qu'il faut qu'on dise. Mais il y a de plus en plus de cas dans lesquels on trouve quelque chose. Si on parle d'une capacité à détecter les anomalies génétiques, on sait que c'est surtout dans les formes d'autisme avec des difficultés intellectuelles qu'on arrive à trouver des gènes. Parce que comme l'autisme est un spectre il y a très vaste, finalement, il y a des cas où l'autisme avec un très bon niveau, comme pour Thomas, et des gens qui font des grandes études et qui ont une vie tout à fait normale. Et ces personnes-là, c'est plus rare de trouver quelque chose de génétique. Notre connaissance de la génétique de l'autisme, elle est surtout le fait de formes plus sévères avec des personnes qui ont des difficultés intellectuelles. Donc on peut trouver, mais par exemple, si on prend ces formes-là d'autisme, 1% des cas d'autisme est lié au syndrome du X fragile. Syndrome du X fragile, c'est la maladie rare la plus fréquente dans l'autisme. 1% des cas d'autisme sont liés à ça. Et donc ça, c'est facile, c'est une prise de sang, un diagnostic facile. On estime que dans à peu près aujourd'hui en France, dans à peu près un tiers des cas d'autisme avec déficience intellectuelle, c'est le terme approprié, on peut arriver à un diagnostic génétique. Donc c'est pas rien, un tiers. Ça laisse deux tiers des gens qui n'ont pas le diagnostic génétique. Et ces deux tiers-là, ils sont encore dans l'errance diagnostique. Après, quelque part, le fait de chercher des explications génétiques, c'est aussi important en soi, même si on ne trouve pas. Parce que ça déplace le débat de manière complètement différente. Plutôt que de continuer à stigmatiser la personne en disant, voilà, c'est parce que vous n'êtes pas inséré, vous n'êtes pas, etc. Vous déplacez le débat en disant, c'est une histoire génétique. Dans certains cas, on trouve. Dans d'autres cas, on va continuer à chercher. Mais ça enlève la culpabilité de la personne. Donc c'est de toute façon bien, je pense, d'un point de vue psychique, d'aller vers cette démarche-là.
Alors, tu parlais du nombre d'anomalies génétiques dans l'autisme par rapport au syndrome bronchio-oculofacial. Tu disais que c'était enfin, Thomas, tu disais aussi que c'était un syndrome rare. Ça représente quel, en termes de chiffres?
C'est des maladies qui touchent quelques dizaines de personnes en France.
D'accord.
Donc, il faut imaginer que c'est là aussi où la génétique, elle avance. C'est-à-dire que. Et Thomas en a fait un peu les frais, c'est-à-dire qu'on a mis finalement assez longtemps à identifier ce syndrome-là, parce que nos connaissances de tous les syndromes, elles prennent du temps. C'est-à-dire qu'on dit, bah, Thomas, il a un problème au niveau ORL, il a un problème au niveau du rein, il a les cheveux de telle couleur, il a telle petite particularité. Donc finalement, quelqu'un d'entraîné médicalement, à force de mettre tous ces petits éléments ensemble, il se dit, ah, ça peut faire un syndrome, qui est ce syndrome-là? Et je vais aller chercher le gène correspondant. Aujourd'hui, avec la génétique, comme on va screener tout le génome, on va rechercher des choses dans tout l'ADN, en fait, on va trouver des variants dans des gènes sans forcément toujours avoir tous les éléments à regarder avant. Et donc, en fait, on gagne un temps important parce qu'en fait, si, alors Thomas, c'était trop tôt, mais aujourd'hui, si on arrivait avec une indication comme avait Thomas à l'époque, on pourrait faire un séquençage de génome et trouver directement la mutation et gagner un temps très, très important en termes de diagnostic moléculaire.
D'accord. Et Thomas, toi, ça t'a fait quoi quand on t'a parlé justement de syndrome bronchio-oculofacial, d'autisme?
Alors moi, à l'époque, on m'a pas du tout parlé d'autisme, en fait. Effectivement, c'est ce que disait Boris, en vérité. À l'époque, bah déjà, on connaissait apparemment beaucoup moins de cas, déjà. On faisait beaucoup moins de diagnostics génétiques sur la question. C'est-à-dire que le diagnostic génétique, pour qu'il soit fait, donc je crois que c'était en 2009, il a été fait en Allemagne.
Alors, tu as fait le bilan en France.
C'est alors que j'étais suivant en France.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc ça montre d'une part qu'il y a eu une énorme évolution en 10-13 ans. Et qu'effectivement, on est passé d'un stade quasi expérimental, en fait, dans la recherche, où il devait y avoir quelques labos qui travaillaient là sur le type de syndrome. Et en fait, c'était le seul moyen de se faire diagnostiquer rapidement. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, la situation qui est décrite a l'air beaucoup plus mainstream, quelque part, beaucoup plus simple à accéder, et même pour le diagnostic génétique en général. Moi, pour le coup, je n'ai pas fait de bilan génétique, puisque tout en fait aiguillait vers ce syndrome-là. Et on m'avait prévenu avant, de toute façon, que ça ressemblait à ce syndrome-là. Il y avait ça qui collait. La question, ça a été de savoir, est-ce que je voulais savoir?
Ah oui, d'accord. Est-ce que tu
La
voulais
question,
confirmer ou pas?
ça revient là-dessus. Est-ce que je voulais savoir, est-ce que je voulais confirmer?
Ouais.
Moi, clairement, oui. N'ayant pas à l'époque, mais ayant eu par la suite un background scientifique assez divers, dont dont un peu de médecine et de la biologie, donc forcément la curiosité sur ce plan-là faisait que je voulais savoir. Et d'une part, bah, je considère que c'est toujours mieux de se connaître en fait. C'est un peu mon point de vue. Je pense que c'est toujours mieux de se connaître, même si des fois ça peut faire un choc, ça peut faire un choc de se connaître. Ça n'a pas été mon cas, mais j'imagine. Il y avait eu un cas assez médiatisé il y a quelques années d'une star de cinéma qui avait appris qu'elle avait un énorme facteur génétique de cancer du sein ça avait fait la une des journaux parce qu'elle avait décidé de se faire, faire une ablation des seins pour éviter d'avoir un cancer. Et j'imagine que dans ce genre de cas, c'est beaucoup plus compliqué à avaler plutôt que dans mon cas où, en fait, j'ai souvent tendance à dire très souvent que le mal est fait en fin de compte. Puisque
Ouais,
ça
toi, c'était
touche,
pas un
enfin
risque, c'était
voilà, surtout que ça touche un gène de développement dont le nom m'échappe, TF quelque chose,
Vas-y, Boris,
TP
tu
quelque
fais
chose,
derrière toi.
je ne sais plus. Mais bref,
Joker.
c'est principalement ça, en fait, c'est principalement lors du développement que les choses se font, d'où les malformations à la naissance d'ailleurs. Et
Ouais.
de fait, le mal, entre guillemets, est fait. C'est vrai que depuis, j'ai pas eu beaucoup d'évolution de choses, peut-être plus des fragilités qu'autre chose. Mais déjà, pour certaines, elles sont apparues un peu plus tard. Voilà. Le fait que, avec l'âge.
C'est quoi justement
Ces fragilités, ouais.
J'ai une certaine fragilité oculaire, alors ça a toujours été le cas, mais c'est vrai que c'est pas encore préoccupant, mais faut vérifier quoi.
D'accord.
Voilà, j'ai une certaine fragilité dentaire. C'est des petites choses comme ça, c'est rien de bien méchant en fait, mais c'est l'accumulation qui peut être assez. Comment dire Il peut y avoir une certaine charge en fait mentalement là-dessus, qui fait qu'en fait l'accumulation, et on craint un peu souvent la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est vraiment
D'accord.
ce truc de la petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau, la
Ouais.
petite goutte d'eau, et à un moment donné. Et moi, ça m'arrive de me poser la question, et si un jour il y a vraiment le truc de trop et que je pète un câble en fait,
D'accord.
j'envoie tout balader, et je fais, bah, vas-y, c'est bon, je me drogue jusqu'à la mort, et voilà. Enfin, c'est peut-être stéréotypé, mais la question, elle vient en fin de compte. Il y a le truc de dire, et si un jour il y a vraiment le truc de trop et que je me dis juste, bah, j'en ai marre, je vais au milieu de la forêt. Et élever des pigeons, et voilà quoi.
Ouais,
C'est.
d'accord. Et en fait, tu as tout un tas de problématiques physiques finalement, et c'est ça qui a été repéré initialement, hein, c'est ce que tu disais. Donc tu as plein de
Oui.
spécialistes qui s'occupent de toi, comment ça se passe?
Alors, j'ai été suivi par pas mal de spécialistes, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'un temps où les hôpitaux n'étaient pas informatisés.
Ah oui, donc
C'était il y
chacun
a 30
faisait
ans.
dans son coin, quoi.
C'était un petit peu ça, et
Ouais.
les archives, bah, les archives de l'hôpital, ça doit être Inception, le truc. C'est-à-dire que vous ouvrez un dossier, il doit y en avoir 10 000 dedans. Donc non. Surtout que mon dossier doit être un énorme pavé, et qu'il est perdu quelque part dans les archives, et qu'il n'a jamais été numérisé en fin de compte.
Ah
La
ouais,
seule chose
ouais.
que j'ai, c'est les bilans médicaux, enfin les comptes rendus
Ouais.
médicaux, comptes rendus d'opération, les comptes rendus de rendez-vous. Mais j'ai pas le dossier, et personne ne sait où se situent les dossiers dans les entrailles de l'hôpital. Et je pense que je pouvais être loin d'être la seule personne dans ce cas-là qui, en fait, bah, a un souci avec le fait qu'à l'époque, c'était pas forcément. Déjà, la révolution informatique n'avait pas été prévue, et on ne prévoyait pas du tout un monde où on allait tout enregistrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les technologies cloud, on enregistre tout. Avec le big data, on relie tout. Et en fait, ça paraît inconcevable aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, bah, un service qui communique avec un autre, c'était juste un médecin qui parlait avec un autre, à la limite dans un rendez-vous formel, voire moins.
Ouais.
Alors qu'aujourd'hui, bah, il suffit de chercher le dossier, à la limite, bon, voilà,
Donc là,
c'est
actuellement, tu as
simple.
l'impression que ton suivi physique est plus facile.
Actuellement, oui, c'est
Ouais,
beaucoup plus simple.
c'est beaucoup plus
D'accord. On peut
cohérent.
envoyer un mail à une
Ouais.
personne. À l'époque, fallait appeler. Fallait
Ouais.
appeler des secrétariats. C'est
Fallait utiliser les fax.
Les fax, mais
oui.
oui.
Oui, effectivement.
Et ça, ce que Thomas nous dit là, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dans les formes d'autisme qu'on dit, nous, qu'on appelle syndromique, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre d'un syndrome, souvent c'est un autisme avec d'autres choses à côté, qui sont des problèmes physiques, ce qui peuvent prendre peuvent atteindre différents organes. Et en fait, ça veut dire que le parcours de soins, il n'est pas assez coordonné. C'est-à-dire que ben, ça commence un petit peu, effectivement, l'informatique nous aide beaucoup là-dessus, mais vous avez un spécialiste cardiologue dans un coin, vous avez un spécialiste ORL, vous avez un spécialiste neuro, vous avez un spécialiste psychiatrique. Et en fait, ces gens-là parlent des langages différents. Et aujourd'hui, quand on a une anomalie génétique identifiée, ça permet aussi quelque part, quand on a mis le nom sur quelque chose, sur le syndrome, sur l'anomalie en question, de parler d'un même langage entre les spécialistes. Donc, c'est-à-dire que nommer les choses permet aussi que quelque part, on ait un lien correct entre les collègues qui disent « Ah oui, c'est la personne qui a ce syndrome-là ». Elle n'est pas réduite à ce syndrome, évidemment, cette personne-là, mais je sais que dans ce syndrome-là, il peut y avoir des problèmes, par exemple, cardiaques, donc je fais faire attention aux problèmes cardiaques. Il y a des problèmes psychiatriques, et donc je vais penser à l'amener rapidement vers la psychiatrie. C'est pour ça que le diagnostic génétique, il est intéressant, parce qu'il permet de préparer l'avenir. Pas toujours, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais il y a certains syndromes avec des anomalies génétiques où on sait qu'il va falloir faire plus attention à telle ou telle chose pour la personne dans le futur. Donc ça, c'est extrêmement important aussi, pour faire de la prévention et pour pouvoir comme ça intervenir tôt, parce qu'on sait que plus on intervient tôt, bah, meilleur est le pronostic ça dans grand nombre de cas. Donc c'est aussi ça la richesse de la génétique, et puis de ramener les problèmes psychiques à quelque chose de matériel aussi, et donc d'arrêter cette espèce de coupure qu'on a parfois entre d'un côté il y a l'âme, le psychisme, et on met ça de manière un peu immatérielle au-dessus du corps qui flotte, versus le corps qui serait quelque chose qui serait reconnu par la médecine, sachant que l'autre serait plutôt du côté de la psychologie. En fait, non, les choses sont liées. On a des symptômes.
Un truc que tu peux palper et un truc que tu ne peux pas palper. Quoi. Enfin,
oui, mais quelque part, par le fait que tu es dans un syndrome que tu as repéré, tu sais que dans le syndrome, les gens ont tendance à avoir tel type de symptômes. Et donc, du coup, tu fais le lien entre les choses. Et tu fais le lien entre les spécialités et tu unifies la médecine et la psychiatrie en même temps.
Il y a une rationalisation, en fait, de l'onglet psychiatrique de la chose.
Ça, je ne sais pas si ça a été utile, par exemple, Thomas, de pouvoir aussi dire que les problèmes psychiatriques étaient possiblement en lien avec le syndrome.
Alors, moi, je n'ai pas eu trop de soucis là-dessus, puisque c'était plus une démarche personnelle, puisque j'avais déjà un travail, j'étais déjà plutôt inséré socialement, en fait. Enfin, inséré socialement, c'est un bien grand mot, mais on va dire qu'il y avait au moins une insertion qui peut paraître normale. Voilà. C'est pas exceptionnel, mais c'est quelque chose de minimal. J'étais pas en détresse sociale, par exemple.
C'était quoi, du coup, tes symptômes sur le plan social, sur le plan relationnel ?
Sur le plan social, c'est plus... alors, ça se voit pas comme ça, parce que je suis très extraverti, mais je suis quelqu'un d'assez timide, en vérité, dans le cadre des interactions sociales. C'est-à-dire que dans l'intimité, je vais être quelqu'un de passif potentiellement. Il y a beaucoup de choses que je considère comme étant des évidences sociales et que je ne vais pas forcément penser à rappeler. Typiquement, demander à quelqu'un s'il va bien, ça ne me vient juste pas à l'esprit.
Ouais, le small talk, quoi.
J'ai juste ce réflexe en fait de me dire si la personne va mal, elle va me parler. Et s'il va bien, si la personne va bien, comment dire, il y en a signalé, quoi. En fait, je vois pas mal les relations sociales comme quelque chose qui implique un intérêt. Enfin, pas un intérêt dans le sens troc ou un intérêt dans le sens financier, mais un intérêt intellectuel. C'est-à-dire que parler de la pluie et du beau temps, personnellement, vu que ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas penser à le faire. Et je considère difficilement que ça puisse intéresser qui que ce soit, en fait. Là où parler de choses plus sérieuses, ou parler de manière plus sérieuse, là par contre je peux être quelqu'un d'extrêmement social.
De sujets qui t'intéressent ?
Ou de sujets qui ne m'intéressent pas d'ailleurs. Je m'intéresse beaucoup en surface à pas mal de sujets en fait. Ce qui me permet d'avoir des connaissances minimales qui me permettent à peu près de comprendre ce qui se passe sans être expert sur la question. J'ai au moins des petites briques qui me permettent de raccrocher et d'apprendre des choses. C'est un peu comme si on faisait un cours de maths et que personne ne vous explique la numération. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne comprendrez rien au cours de maths. Si vous connaissez les opérations basiques, on peut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, si la personne se met directement à parler de triple intégrale avec des exponentielles partout, ça va être compliqué. Mais il y a moyen de raccrocher sur des sujets au moins un petit peu plus complexes, sachant que le nombre de personnes qui parlent de triple intégrale avec des exponentielles partout, c'est quand même assez minime dans la société.
Mais du coup, toi, au niveau amical, au niveau relation sentimentale, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été facile pour toi ou non? Là, justement, tu as l'air de
Ah
dire que non,
c'est
justement.
pas quelque chose de facile du tout. Surtout les relations sentimentales, justement, qui impliquent énormément de choses passives, en fin de compte. En fait, le côté intense des relations sentimentales, ça fonctionne très bien. En fait, c'est le côté plus passif de la chose que... je sais qu'on m'a déjà reproché de m'en foutre alors que c'était tout l'inverse.
Ah ouais, donc tu le montres
Alors que
pas, ça se voit pas
c'est tout
extérieurement.
l'inverse. Dans certaines situations, clairement, ça se voit. Mais dans la vie de tous les jours, je ne suis pas forcément très avenant, c'est vrai. Je ne suis pas forcément avenant. J'y pense pas. Ça n'a pas partie de mon logiciel mental, en fait. Et si je n'y pense pas, je ne vais pas le faire. Et ça rejoint un peu quelque chose qui était dit par rapport au suivi médical, etc. Il y a quelque chose qui est assez compliqué, même à se heurter à des sujets, on va dire, plus administratifs, plus formels. C'est qu'il y a une espèce de rigidité là-dedans, dans toute l'administration, qui fait que c'est extrêmement compliqué d'entrer en contact. En fait, il y a une énorme réflexion avant d'entrer en contact avec une institution. Enfin, là-dessus, je pense surtout aux administrations, vraiment administration.
Mais comment tu fais du coup pour gérer? C'est quoi ta
Ben, je
stratégie?
mets beaucoup de temps. Je mets beaucoup de temps et au bout d'un moment, je décide de le faire. Ça va me prendre comme ça et je décide de faire ça parce que faut bien que je le fasse à un moment.
Tu mets
C'est
beaucoup
une
de temps
source
avant de le
d'angoisse,
faire.
mais
D'accord,
il faut bien le faire.
ouais. Et pareil dans les relations sociales, relations amoureuses, enfin, qu'est-ce que tu mets en place pour améliorer les choses?
Donc dans les relations amicales, c'est assez simple, c'est que je réduis mon cercle d'amis, en fait, à des gens sur lesquels je sais que je peux compter, quoi. Et des gens que je sais les interactions ne vont pas poser de problème. Parce que c'est des gens qui vont avoir l'interaction facile et donc qui vont être avenants. Et donc moi, ça va m'engager quelque part à l'être aussi.
Ah, mais donc tu vas
Il y a
vers des
pas...
gens qui sont plus extravertis finalement.
Exactement.
Ah oui, d'accord,
D'accord.
Soit des gens qui sont très extravertis, soit vers des gens qui sont très timides. Enfin, très introvertis. Parce que des gens qui sont très introvertis, ça va être des personnes vers lesquelles je vais difficilement me heurter à quelque chose, en fait, en allant vers eux. C'est des gens qui sont pas, en général, qui ne sont pas surstimulés socialement, qui ne sont pas, entre guillemets, blasés des interactions sociales. Donc, il y a l'idée de ça va leur faire plaisir, en fait, d'aller vers eux. C'est parce que je les connais et c'est pas une personne extérieure qui viendrait justement les heurter dans leur microcosme personnel. Là où les personnes extraverties, ça va être l'inverse. Elles vont aller vers la personne, limite en s'en foutant complètement de la conséquence. Moi, de mon côté, vu que je suis extraverti, mais en même temps timide, ça vient, on va dire, titiller ma timidité et m'en faire sortir. Enfin, de mon point de vue, c'est vrai que la timidité, c'est pas un truc d'assumer naturellement, en fait. C'est que si on vient la titiller, je vais en sortir. C'est un peu ce truc-là. Si en fait on vient me chercher, je viens. Mais il faut juste venir me chercher.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Thomas a extrêmement bien appris à se connaître et à développer des stratégies pour compenser les difficultés. Le fait de se connaître, le fait de faire aussi, j'imagine, des démarches pour avoir obtenu le diagnostic, fait qu'ensuite on peut mieux prendre en charge ça. Et bravo aussi d'avoir franchi le pas de venir à l'hôpital Sainte-Anne, ce qui parfois fait un peu peur, mais que Thomas nous illustre là en disant que c'est quelque chose d'extrêmement positif.
Et comment tu vas aujourd'hui?
Ça va à peu près. Déjà, j'ai un travail fixe. C'est pas rien. J'ai pas mal galéré pour ça. Donc, je vais prochainement avoir un chez moi. Donc, voilà. Définitif, entre guillemets, en tout cas, tant que je le possède. Donc, ça a été un énorme pas et une énorme source d'angoisse de l'année dernière. Mais au final, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Donc, pour l'instant, c'est plutôt une bonne chose. Sur le plan social, Ben, le Covid a fait son œuvre. Les confinements ont fait, les confinements et autres choses. Je pense aux grands sujets polémiques qui ont divisé les Français ces derniers mois ont fait que ben, mon cercle social s'est un petit peu réduit. Hein, voilà. Mais moi, j'ai gardé des gens proches, donc là-dessus, il n'y a pas. Voilà, il y a toujours une certaine nostalgie d'une époque où c'était mieux, mais bon. Si on reste toujours sur le c'était mieux avant, on n'avance pas.
Au niveau relationnel, comment ça se passe professionnellement justement avec tes collègues et tes
Alors,
supérieurs?
j'ai eu un. Au début, il y a eu un peu une petite incompréhension, peut-être plus les problèmes de communication en fait. J'ai eu affaire à quelqu'un qui avait un caractère qui était assez différent du mien, assez posé, etc. Alors que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Et en fait, ben, c'est assez marrant parce que dans cette relation, il y a une idée d'apprendre à se connaître aussi. C'est-à-dire, ben, évoluant dans le milieu dans lequel j'évolue, mon supérieur, c'est un manager, et comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui doit faire en sorte que ben, tout se passe bien et que les objectifs sont remplis. Et en fait, il y a beaucoup dans ce rôle-là aussi de connaissance des gens qu'il y a en dessous de toi. C'est-à-dire de connaître leurs forces, leurs faiblesses, bien sûr, professionnellement, mais aussi savoir comment eux, ils voient les choses quand ils travaillent. C'est-à-dire voir leurs points positifs, les faire ressortir, mais aussi voir leurs points négatifs ben, quand il y a des choses qui ne sont pas comprises potentiellement, ou une communication qui peut mal passer dans le sens négatif, mais qui peut être incomprise, justement, dans des présentations de sujets, etc. Et le fait d'avoir des échanges là-dessus fait que. En fait, il y a une communication qui se met en place et que, en fait, tous les parties en sortent gagnants quelque part.
Et là, du
Voilà.
coup, la bienveillance finalement de ton supérieur t'a permis de mieux te connaître
C'est ça.
et de mieux évoluer.
C'est ça. De mieux me
D'accord.
connaître professionnellement et d'évoluer même ben, dans la connaissance de moi et surtout dans ma connaissance des autres, en fait, et de la perception des autres. Parce que c'est un truc, souvent, ben, la différence fait que les gens s'attendent à une démarche de la personne vers eux. C'est-à-dire que eux ont très peu appris à se connaître, en fin de compte, et donc ne savent pas comment ils fonctionnent. Ben, quand on leur demande, eux, ce qu'ils attendent, ils n'en ont aucune idée, parce que pour eux, c'est naturel. C'est logique, en fait. Alors que, ben, d'une part, pour moi, c'est pas logique. Et d'autre part, ben, pour eux, la manière dont on fonctionne n'est pas forcément logique non plus. C'est-à-dire
Donc,
que.
que chacun se connaisse
Mais
mieux,
ça.
finalement, permet de faire avancer tout
C'est
le
ça.
monde, quoi. D'accord.
La discussion, je pense que c'est une des choses qui fait avancer le plus, qui fait avancer le plus le monde et qu'on devrait un peu plus aller là-dessus, en fait. Plus se parler, plus se connaître aussi. Voilà.
C'est joli.
Est-ce que bah, y a encore des difficultés dans ta vie?
Oui. Oui, clairement. Ben, je pense notamment en termes de. Peut-être d'estime de moi et en termes d'anxiété, en fait. C'est-à-dire que dans certaines situations, mon estime de moi est peu, pas être complexée non plus, mais une espèce de cartésianisme malsain, ce que j'appellerais comme ça. C'est-à-dire cette espèce de réflexion logique qui aboutit de il y a une différence à je suis en infériorité. C'est une réalité, mais c'est pas non plus une fatalité. Et en fait, le problème, c'est de glisser à partir de là vers la fatalité. Et de se laisser baigner sans cette fatalité et de se dire, bah, je ne peux pas faire ça parce que bah, justement, je suis différent, donc ce n'est pas possible et je ne pourrai jamais sortir de cette case. Alors que j'ai montré à plusieurs reprises que j'étais plutôt bon en la matière de sortir des cases. Je pense que j'ai réussi pas mal de fois. Et là-dessus, oui, en fait, sur le plan professionnel, un petit peu, que j'ai parfois pas mal de difficultés à me mettre en avant, de moins en moins et assez vite d'ailleurs, de moins en moins. Et sur le plan sentimental aussi, c'est assez compliqué. De dire, tout simplement, de dire que je peux attirer quelqu'un, c'est un truc que je me dis instantanément, en fait. Et ça m'a déjà même posé des problèmes. Bon, dans une période où j'étais beaucoup plus enclin à la dépression, à l'anxiété la plus totale, donc en même temps ça aide pas au niveau estime de soi, mais ça a déjà pu me poser des problèmes.
Est-ce que la question du syndrome génétique, la mise en couple, le fait d'avoir des enfants, tu t'es posé ces questions-là?
Ça m'est arrivé une seule fois depuis que j'ai le diagnostic de TSA. Par contre, niveau syndrome, ça m'est arrivé plus ou moins à chaque fois. Et je préfère mettre les choses sur la table. Quoi. Si ça te pose un problème, partout en courant, je m'en fous. Mmh. Au moins qu'on le sache au départ, avant de partir sur quelque chose qui dure, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, et qu'on se rende compte à ce moment-là. Je préfère mettre les choses sur la table directement, en fait. Quitte à ce que ça effraie, de toute façon, j'imagine que la personne qui entre dans une telle intimité avec moi se doute qu'il y a quelque chose. Il suffit de me regarder physiquement pour se rendre compte qu'il y a un truc. À un moment, je me dis que mettre ça sur la table dès le départ, c'est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, c'est une question qui me pose plus problème personnellement, en fait. Me dire je sais que ça va me poser des problèmes si un jour je veux des enfants, ça je le sais. Mmh. Ça va être une barrière, ça va être un truc, ça va être une épreuve, voilà. Tout le monde n'est pas enclin et en état mental d'affronter ce genre d'épreuve. Hein ? C'est pas vraiment pour moi que je me fais du souci, mais plus pour la personne à côté. Parce que moi, j'ai toujours vécu là-dedans. Et je sais que, en fait, les autres gens, ne serait-ce que parler d'hôpital, il y en a certains, ils sont dans l'angoisse. Alors que moi, l'adolescence, je suis allé à l'hôpital comme j'allais en vacances. Quoi. Moi, ça me semble évident, c'est un truc avec lequel j'ai toujours vécu. Mais en fait, c'est plus par rapport à la personne qui sera potentiellement concernée si ça arrive un jour. Là, on passera de l'hypothétique, de quand on en parle, c'est cool, l'amour, tout ça, tout est merveilleux et tout passe toujours. Mais quand on arrive dans le réel et que le réel, il arrive façon violence d'un coup, là, la question, elle se repose. Et c'est plus la même chose.
Et là, est-ce que la consultation génétique, justement, a un intérêt ?
Oui, parce que quand on a un diagnostic génétique, on peut estimer assez précisément le risque de transmission aux enfants. Avec même aujourd'hui des possibilités de choisir de ne pas transmettre l'anomalie génétique. Puisqu'il y a... Alors ça dépend des cas de maladies rares, ça dépend du niveau de handicap éventuel, mais il y a deux procédures qui existent en France. Le diagnostic prénatal, c'est-à-dire on laisse faire la nature, on fait un enfant, et pendant la grossesse, on fait le test génétique. Si l'enfant est porteur, on peut interrompre la grossesse, par une interruption médicale de grossesse. Autre possibilité, le diagnostic préimplantatoire. On fait une fécondation in vitro, on trie les embryons non porteurs de la maladie et on réimplante les embryons qui n'ont pas la maladie. Et donc finalement, on a un enfant qui n'est pas porteur à la fin de la maladie. Donc la connaissance génétique, elle nous aide aussi à mieux anticiper les projets, à y compris les projets d'enfants. Et ça, c'est important. Donc, la génétique, elle sert à beaucoup de choses, finalement. Là où elle sert encore peut-être un petit peu moins, c'est de modifier le traitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, pour l'instant, parce qu'on a une connaissance génétique des choses, la possibilité de mettre tel ou tel traitement ciblé, à part dans quelques maladies, mais pas tellement en psychiatrie. Par contre, il y a des essais cliniques qui existent aujourd'hui. Par exemple, dans le syndrome du X fragile, il y a eu une vingtaine d'essais cliniques sur les 15 dernières années. Dans le syndrome de Rett, qui est une maladie très grave, dans laquelle il y a de l'autisme aussi, chez les filles, on a des essais cliniques en cours. Donc, c'est-à-dire que le fait de connaître aussi l'anomalie génétique peut permettre des fois de mettre en place des traitements innovants.
Ouais.
Et donc, on espère aussi beaucoup de progrès face à ça.
Mais sans toucher, parce que c'est un petit peu souvent une critique qui est faite, sans toucher à la neurodiversité, finalement, c'est pas ça qui est ciblé. Ce que tu dis, c'est vraiment des maladies graves qui ont vraiment un pronostic fonctionnel, vital, important.
La limite, c'est qu'effectivement, si la personne différente ou dans neuroatypique, et qu'elle le vit bien. Pourquoi lui enlever ça, chacun est différent, et tant mieux, on est riche dans l'humanité d'une diversité. Non, la question, c'est quand il y a une souffrance ou qu'il y a une maladie à prendre en charge. Et donc ça, effectivement, là, on a besoin d'intervenir avec la médecine.
Alors, est-ce que tu as un des rêves pour la suite, Thomas?
C'est une question compliquée, ça. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses que je voulais faire dans ma vie. Beaucoup de trucs. En fait, j'étais très, très vite. Et du coup, je me dis, maintenant, je fais quoi? Je suis dans une période, en fait, où je me dis, maintenant, il y a quoi? C'est quoi la suite? La vie, c'est donc ça. Je me pose et je bosse jusqu'à la retraite. Et retraite. Un bien grand mot. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai eu une vingtaine, voilà, entre 18 et 28. Voilà, c'était un film, le truc. C'est vraiment, hein, je pourrais en écrire un bouquin ou filer le scénario à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'un certain Gaspard Noé en fera un très bon film, d'ailleurs.
Oula.
On commence par le podcast et après, on fera le film.
Non, mais il y a eu beaucoup de choses, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que là, j'entre dans une période qui va être beaucoup plus calme. Et en fait, j'ai jamais vraiment connu ça. Donc, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais bien le vivre? Est-ce que ça a duré un an, 2 ans? Et je vais sombrer totalement dans le mutisme et la dépression? J'en sais rien. D'accord. Et est-ce que je ne sais pas, ça va m'ouvrir des opportunités que je n'avais jamais vues avant? Est-ce que, bah, en fait, je sais pas et j'entre dans un inconnu total. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je voulais faire des choses et en fait, les choses, je les ai faites, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je veux dire, j'ai pas pour envie de devenir le nom qu'on aura pas oublié dans 300 ans, dans 5 milliards d'années, on l'aura oublié. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je me dis, je sais pas, j'ai fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux encore faire qui ne soit pas juste un luxe total? Je ne sais pas.
Tu sais pas. La grand questionnement.
Est un grand rayon d'inconnu et on verra bien.
D'accord. Eh ben écoute, on verra bien. C'est un beau mot de fin. Ça y est. Ben, merci beaucoup. Donc, c'était Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Thomas. Merci Boris. Et à bientôt.
À bientôt.
Merci pour votre écoute. On aimerait remercier aussi toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce podcast. Bruno et Morissette pour tous les moyens techniques, Sophia, Max et nos autres co-animateurs, et surtout nos invités qui nous ouvrent la porte de leur intimité à chaque épisode. Notre espoir, c'est que ces partages d'expériences participent à enrichir des réflexions individuelles et sociétales, et pourquoi pas à vous soutenir dans votre parcours personnel. On espère pouvoir tenir un rythme de 2 épisodes par mois. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de votre expérience sur notre compte Insta, C3RP, Réhab Psychosocial. À bientôt.